Il est 9h20.
France Inter, le 7-9, intervenu.
Au 01 45 24 7000, Hervé nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, donc moi j'habite à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, le pays des paquebots, et je suis retraité. Et ce dont je m'aperçois, c'est que quand on repousse l'âge de la retraite de 60 à 65 ans, tous ces gens qui sont déjà usés par le travail, par le bruit, par le travail au chantier, et qu'on laisse tous ces jeunes au chômage dans un complet dénouement, sans perspective d'avenir, ne serait-il pas plus judicieux de laisser la retraite à 60 ans et de permettre à tous ces jeunes de rentrer sur le marché du travail et qu'enfin ils perçoivent un salaire dû à la tâche, enfin au labeur qu'ils ont? Et je trouve que c'est complètement improductif de repousser l'âge de la retraite alors qu'on a tous ces jeunes qui sont au chômage. Et quand j'entends Monsieur le maire parler de la façon dont il parle, je comprends vraiment plus rien. Je trouve que c'est complètement improductif.
Merci Hervé. Bruno Le Maire.
Bonjour Hervé. Je vais répondre à votre question. Pourquoi est-ce que je propose d'allonger l'âge légal de départ à la retraite? Pour une raison qui est simple, c'est que nous vivons plus longtemps et que je tiens absolument à sauver le régime de retraite par répartition. Et que si on veut sauver le régime de retraite par répartition, il faut que chacun accepte de travailler plus longtemps. Sinon, on va vers des régimes strictement privés. J'y suis absolument pas favorable. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est ce que vous dites sur la pénibilité. D'abord, bravo pour les chantiers de l'Atlantique, qui sont un fleuron de l'industrie française et qui montrent que l'industrie française a un bel avenir devant elle.
Mais dans votre programme, vous remettez en cause le compte pénibilité,
oui,
Bruno Le Maire.
Mais je tiens à ce que la pénibilité fasse partie des engagements des entreprises. Et je propose, à la place du compte pénibilité, qu'on mette en place des dispositifs de prévention de les troubles musculo-squelettiques.
Oui, sauf que la prévention, ça vaut pour les travailleurs à venir, pas pour ceux qui ont déjà 30 ou 40 ans de boulot dans leur boîte.
Les deux propositions que je fais, Patrick Cohen, c'est de dire qu'une entreprise qui prend toutes les mesures nécessaires pour avoir des équipements dans son entreprise qui préviennent les troubles musculo-squelettiques, qui permettent de lutter avec plus d'efficacité contre les accidents au travail, eh bien, elles seront récompensées, et récompensées financièrement. Celles qui ne le feront pas seront pénalisées, et pénalisées financièrement. Par ailleurs, je continue à penser qu'il faut, en matière de pénibilité, tenir compte de la date à laquelle vous avez commencé à travailler, comme le disait Hervé, dans le calcul de votre retraite. Il y a des carrières longues, on doit tenir compte des carrières longues dans les retraites. Bien entendu que la pénibilité, ça fait partie de la vie au travail. Bien entendu que lorsque je visite le chantier de Beneteau en Vendée, je l'ai fait il y a quelques semaines, et que je vois des femmes qui ont 55 ou 56 ans, qui ont passé leur vie à mettre du vernis sur des coques de bateaux, dans des conditions qui sont difficiles. Elles sont fières de leur boulot, elles aiment leur boulot, mais c'est plus difficile de faire ça toute la journée que de taper des noms dans un ordinateur. C'est pas la même chose. Donc je veux en tenir compte. La prévention et tenir compte des carrières longues, voilà les deux propositions que je fais pour tenir compte de la pénibilité.
Dans le même ordre d'idée, Bruno Le Maire,
je veux finir sur la question de Hervé parce qu'elle est vitale. C'est pas parce que on fera partir les gens plus tôt à la retraite qu'il y aura de la place pour les jeunes au travail. C'est pas vrai cette idée. Si on veut que nos jeunes trouvent un emploi, il faut transformer totalement notre système éducatif, c'est ce que je propose. Valoriser l'apprentissage, c'est ce que je propose. Valoriser la voie professionnelle, c'est ce que je propose également. Rapprocher les lycées professionnels, les centres de formation des apprentis, de la réalité du travail sur le terrain. Je propose des écoles de métiers qui fusionneront ces CFA, ces lycées professionnels et qui seront placés sous la direction des régions avec la participation des entreprises. Donc oui, je veux me battre pour que chaque jeune dans notre pays trouve un travail avec des solutions innovantes. Mais c'est pas en faisant partir ceux qui sont en fin de carrière plus tôt qu'on trouvera un emploi pour les jeunes. Ça, Hervé, je n'y crois pas.
Stéphane nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Stéphane.
Allô, allô. Bonjour Hervé, bonjour Monsieur le maire.
Bonjour Stéphane. Stéphane.
Je vous appelle parce que j'ai lu votre livre, que j'ai trouvé excellent, très bien écrit, concis, et en plus votre programme, je suis pas loin d'être quasi tout à fait d'accord avec vous.
Alors, de quel livre parlez-vous? Ah oui, ne vous résignez pas.
Non, j'ai pas lu votre programme 2000 pages.
C'est le digest.
Ah bon,
mais je vous enverrai le programme, très volontiers.
Alors, le livre, Stéphane.
Je paierai les frais de poste parce que ça risque de coûter cher.
Oui, bon, on le trouve en ligne.
En fait, il y a un point que vous ne soulevez pas trop, ou alors ça m'a échappé. Moi, je suis un électeur de M. Rister dans sa belle circonscription de Seine-et-Marne. Et on est dans un coin qui supposément est très pétrolifère. Et je ne sais pas du tout, en lisant votre livre, si vous êtes pour ou contre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Donc j'attends une réponse aussi claire que l'est votre livre.
Merci Stéphane. Bruno Le Maire.
Je n'ai pas l'habitude, Stéphane, de me cacher derrière mon petit doigt. Je suis contre. Je suis contre parce que j'estime que les gains qu'on peut en espérer sont faibles par rapport aux coûts environnementaux. Et que l'environnement, ça compte. Que les politiques sont responsables de la planète que nous laisserons à nos enfants. Que nous sommes tous responsables, à notre niveau, à notre petit niveau, de ce que nous pouvons faire pour améliorer l'état de l'air, la situation des eaux, la qualité des sols. Et que même si ces décisions ont peut-être un impact limité, chacune de nos décisions, au bout du compte, peut avoir un impact important sur l'avenir de la planète. Bon. La question environnementale, elle est essentielle. Je suis hostile au gaz de schiste.
Dans le même temps, vous supprimez le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution et vous faites une critique de l'écologie punitive dans votre contrat présidentiel, Bruno
Le Maire. Parce que je pense justement que c'est l'innovation qui est la meilleure réponse à cette question environnementale.
Le principe de précaution, héritage de Chirac d'ailleurs, vous le...
Oui, je remplace le principe de précaution par le principe d'innovation parce que j'estime que la meilleure réponse à cette question fondamentale de l'environnement et de la protection de notre planète et de la planète que nous laisserons à nos enfants, c'est la capacité à innover. Prenez l'exemple des énergies renouvelables. Quel est le problème des énergies renouvelables? Celui des éoliennes ou celui des panneaux solaires? C'est comment est-ce que l'on stocke cette énergie? Eh bien, avec l'innovation, je souhaite que la France devienne demain la première nation à maîtriser le stockage des énergies renouvelables.
Un mot sur le logement aussi. J'ai vu que vous vouliez abroger la loi SRU, enfin supprimer en tout cas l'obligation de construire 25% de logements sociaux sur les communes.
Oui, parce que je trouve absurde d'imposer à toutes les communes partout en France le même chiffre.
Bah, c'est
je
absurde. Les inciter, ça a été efficace quand même.
Je veux les inciter à construire des logements avec une politique incitative, mais ne pas traiter des communes toutes de la même façon.
Comment vous faites pour les inciter à promouvoir la mixité sociale? Et est-ce que vous pensez que la mixité sociale peut être une réponse à beaucoup de nos problèmes?
C'est Thomas Legrand qui est intervenu.
Oui, la mixité sociale. Merci Thomas Legrand de Paris. Oui, la mixité sociale, ça peut être une réponse. Mais la mixité sociale, ça suppose quoi? Ça suppose justement qu'il y ait davantage de fluidité dans les logements sociaux. Ça suppose qu'on soit capable de dire...
des logements sociaux dans les quartiers et les villes riches aussi.
Mais ça n'interdit pas d'avoir des logements sociaux dans les quartiers, dans les villes riches. Je dis juste qu'il faut qu'il y ait de la fluidité. Et que le fait qu'une famille puisse rester 10 ans, 20 ans, 25 ans dans un logement social, alors que les enfants sont partis, que ce logement pourrait aller à quelqu'un qui en a davantage besoin, bien c'est ça justement qui ruine l'efficacité du social. Moi je crois à la solidarité. Pour les plus faibles, pour les plus fragiles, pour ceux qui en ont réellement besoin. Mais je pense que le social, qui est un acquis où rien ne bouge, c'est pas une bonne chose pour notre pays.
Michael nous appelle de Verdun. Bonjour Michael.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, j'aimerais poser une question à Monsieur le Maire au sujet de tout à la proposition qui a été faite, qui puisse expulser ou faire expulser en tous les cas les personnes qui sont détentrices d'une fiche S. J'aimerais savoir quelle base juridique, sinon la démagogie, va pouvoir donner par rapport justement à ces personnes qui sont simplement suspectées, c'est le S de fiche S sur le territoire, qui n'ont pas commis d'infraction et qui sont la plupart du temps en situation régulière sur le territoire.
Merci Michael. Bruno Le Maire.
Je précisais ma position, Michael, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le sujet. Quelle est exactement ma proposition? C'est donner au juge, et je dis bien au juge, la possibilité d'interpeller et d'incarcérer de manière préventive un individu qui serait soupçonné de lien avec le terrorisme, ce qui constitue un délit. Et c'est au nom de ce délit d'un lien avec une organisation terroriste ou d'avoir favorisé les thèses terroristes que le juge pourrait interpeller et incarcérer de manière préventive un fichier S. Si ce ressortissant est étranger, je veux donner la possibilité au juge d'expulser ce ressortissant étranger, en plus de l'interpeller et de l'incarcérer.
C'est sous le ressort d'un juge ?
Tout est sous le contrôle. Attendez, Patrick Cohen, ce sujet est trop important. Important pour laisser planer la moindre ambiguïté auprès de Mickaël ou auprès de vos auditeurs. Tout se fait sous le contrôle du juge. D'accord. Pas de Guantanamo, pas de décision administrative sans que le juge soit impliqué, parce que cette solution-là, je tiens vraiment à le dire, elle serait pire que tout.
Thomas Legrand.
Est-ce que vous considérez, comme Laurent Wauquiez, qu'il serait une folie, ce sont ses mots, d'accueillir 1800 réfugiés dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Une folie.
Je considère que démanteler Calais pour créer des petits Calais partout en France n'est pas la bonne solution.
Mais vous êtes sûr que ce sont des petits Calais?
Certain que beaucoup de communes, beaucoup de départements n'ont absolument pas les moyens d'accueillir dans de bonnes conditions des
Calais
réfugiés.
Calais, c'est un pôle d'attraction pour passer en Angleterre. J'imagine pas que dans les petites villes où il y aura 25, je sais très bien, mais les petites
Calais.
Villes où il y aura des centres de 25 à 100 personnes réparties dans les régions, on vienne du monde entier pour rejoindre ce coin-là pour passer en Angleterre.
Donc dans une ville de 2000 ou 3000 habitants, accueillir 50 personnes, les loger, scolariser les enfants, leur donner des moyens de vivre dignement, leur trouver un travail, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Alors si sur la base du volontariat, des communes sont prêtes à accueillir des réfugiés, très bien, mais qu'on impose comme ça à toutes les communes d'accueillir des réfugiés de manière autoritaire, pour le coup, ça ne me paraît pas la bonne solution.
Bernard Cazeneuve a promis qu'il y aurait concertation avec les communes concernées. Un regard sur les réseaux sociaux à présent, Sébastien Legény.
Oui, beaucoup de réactions quand vous avez dit que les enseignants devaient faire des efforts. Marie Coulon rappelle qu'un prof peut travailler, dit-elle, jusqu'à 70 heures par semaine, cours, préparation, réunion comprise. Alors de quel effort parlez-vous? Et puis dans un autre style, Franck Béraud, lui, vous dit Bruno Le Maire, ou comment faire des fonctionnaires des boucs émissaires perpétuels? Venez faire un tour dans la vraie vie. Puis enfin, dans la même idée, justement, quelqu'un qui vous demande, vous avez dit avoir eu des échanges avec tous les Français pendant 4 ans, alors avez-vous rencontré beaucoup de chômeurs?
Je réponds d'abord sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires de notre pays, ils font un travail remarquable. Ils sont de qualité. Ils sont honnêtes. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les fonctions publiques du monde. Ils sont professionnels. Simplement, pour que notre pays soit équilibré, qu'il puisse retrouver un élan, il faut que l'équilibre entre le nombre de fonctionnaires et les salariés du privé soit différent de ce qu'il est aujourd'hui. S'agissant des enseignants, j'ai été enseignant. Et je ne les pointe pas du doigt en disant les enseignants ne travaillent pas assez, jamais, ça n'a jamais été mon discours. C'est juste qu'on doit tous faire des efforts, sinon on ne s'en sortira pas. Et que je n'ai pas les moyens de dire, comme François Hollande, on va recréer 60 000 postes supplémentaires dans l'enseignement. Vous savez comment on les recrute maintenant, les enseignants? On a dévalorisé le métier d'enseignant à force de vouloir recruter à tout va. On a dévalorisé le métier, on a dévalorisé la qualité du concours. Donc je préfère leur dire, on va transformer notre système éducatif pour que chaque enfant y trouve sa place. Et oui, je vais vous demander au collège et au lycée un effort, 20 heures par semaine. Et oui, je vais aider les enseignants du primaire. Être mieux rémunéré. Parce que lisez tout mon programme. Dans mon programme, je dis bien que les enseignants du primaire doivent être mieux rémunérés. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'en France, dans une grande démocratie comme la nôtre, les enseignants du primaire continuent à être moins bien payés que dans les autres grandes démocraties. Donc vous voyez que mes propositions sont plus équilibrées qu'on ne le dit.
Un dernier
quant aux
message,
chômeurs, oui, un message important. Ouais. Bien sûr que j'en ai rencontré. Et j'en ai rencontré beaucoup. Et j'ai rencontré des agents de Pôle emploi. Et j'ai rencontré des agents d'associations, d'entreprises privées qui placent les chômeurs, qui les accompagnent, qui leur retrouvent une qualification. Et j'en suis arrivé à cette conclusion toute simple. Ceux qui font le meilleur boulot pour reclasser les demandeurs d'emploi, pour leur trouver une place, pour leur donner une qualification, c'est les associations, c'est le bon coin, c'est les entreprises privées, ça marche mieux. Donc je propose la privatisation de Pôle emploi.
Un dernier message, c'est Jean-Marc qui nous a adressé un petit message sur l'application France Inter. Monsieur le maire ment, il a dit qu'il avait rencontré tous les Français, c'est faux. Je n'ai pas rencontré monsieur le maire.
Jean-Marc, je suis à votre disposition.
Soit su.
On se voit quand vous voulez.
Voilà, dans un instant, on va accueillir Augustin Trapenard et retrouver Sophie Aram.